Salut, c'est Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision. 42e épisode de notre émission aujourd'hui. Évidemment, toujours content de vous retrouver, toujours content de te retrouver. Kevin, salut.
Salut Hugo. Alors, très content aussi.
Tant mieux. Une chance. Écoute, probablement, la dernière fois qu'on se parle cette année, là, on verra, on en discutait un peu avant l'enregistrement en fonction de nos horaires respectifs. Donc, ça se peut qu'on se termine l'année avec le film dont on parle aujourd'hui. Un film qui, je pense qu'il y a matière à discuter certainement. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin?
On a vu The Power of the Dog, ou en version française, Le Pouvoir du Chien, tout simplement.
Je trouve que c'est quand même un peu moins mordant en français. Le Pouvoir du Chien, ça fait un peu film d'animation. Ouais. Faut se faire des amis, faire des aventures. Mais bon, The Power of the Dog, effectivement, réalisé par Jane Campion, et peut-être que je massacre son nom de famille. C'est elle, évidemment, qui avait réalisé La Leçon de Piano. Je pense que c'est le grand film pour lequel elle est particulièrement connue. Ça fait quand même très longtemps que j'ai vu La Leçon de Piano. Je sais qu'elle a fait de la télé pendant quelques années aussi.
Oui, c'est comme là, elle n'avait pas fait de film depuis, je pense, quelque chose comme 12 ans, mm-hmm. mais elle avait réalisé plusieurs, quand même beaucoup d'épisodes de la série Top of the Lake, si ce n'est pas des saisons complètes.
Voilà. Je n'ai pas vu la série, d'ailleurs, je ne sais pas si toi, tu l'as vu.
J'ai pas vu non plus.
Bon, mais bref, peut-être que c'est à découvrir, on pourra possiblement jeter un coup d'œil. Donc, Madame Campion qui revient derrière la caméra, cette fois pour un film, donc on disait The Power of the Dog. Ça vient tout juste de sortir, on enregistre le mercredi, là, le 2 décembre, et je crois que ça sortait ce matin sur Netflix.
C'est sorti hier. Okay. Là, on est jeudi.
On est jeudi, effectivement, oui. Ouais. Ça sortait donc mercredi, voilà, sur Netflix. Qu'est-ce que tu as pensé de Power of the Dog? En fait, d'abord, avant d'y aller, évidemment, je vais un peu toujours à l'envers. Je m'en excuse. Allons-y comme ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? Puis ensuite, on pourra, brièvement, puis ensuite, on pourra peut-être résumer l'histoire et parler un peu du côté plus technique.
C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Qui est quand même assez imprévisible. Moi, en tout cas, quand je regardais ça, ça prend des directions que j'ai pas vu venir. Mm-hmm. Et c'est un western, mais tu sais, c'est un western sans fusil. Tu sais, il faut pas s'attendre à des duels et des poursuites à cheval et tout ça, les clichés du western. C'est vraiment plus psychologique, plus sentimental. Et bon, quand on va parler d'histoire, on pourra expliquer qu'est-ce qui se passe un peu sans trop en révéler, parce que comme je disais, il y a des surprises, mm-hmm. mais c'est dans l'ensemble, c'est un très beau film.
Ben écoute, j'ai aimé ça moi aussi. Moi, je viens tout juste de le finir là, avant qu'on se parle. Un peu comme toi, j'étais un peu surpris à certains détours scénaristiques auxquels je m'attendais pas. Certaines choses qui se déroulent dans le film, là, je me dis bon, ben ça va mener à telle chose ou telle chose. Et finalement, non, ça nous prend un peu par surprise. Tu disais c'est un western sans fusil. Effectivement. Ben écoute, je pense que je pourrais peut-être résumer l'histoire comme ça, on saurait un peu plus où se situer. C'est un film qui se passe en 1925 dans le Montana, mais vraiment une région reculée du Montana. Donc, on est vraiment sur un ranch, ils élèvent des vaches, ils tannent le cuir, tout ça. Donc, c'est l'histoire, en fait, de George et Phil, qui sont deux frères, et qui ont repris, je pense, l'exploitation des paternels, ou en tout cas de leurs parents. Donc, ils ont de l'argent, ça se passe bien, tout ça, mais on voit que Phil, qui est joué par Benedict Cumberbatch, on voit que Phil est un peu plus, justement, un peu plus rancher, un peu plus cowboy, un peu plus cassant aussi, ce genre de on voit qu'il est un peu difficile d'approche et tout ça, et donc George, au contraire, est un plus un gars de la ville, c'est un gars justement de 1925, il s'habille comme en 1925, et là, éventuellement, il y a Rose et Peter, son fils, qui arrivent dans le décor. Rose qui épouse George, et donc il arrive avec son fils sur le ranch de la famille. Et donc là, bon, de fil en aiguille, il se passe plusieurs choses. C'est un peu un film, je te dirais aussi, de l'expression anglaise coming of age, mais pas tant que ça pour le jeune Peter là, qui apprend un peu la vie en dehors de ses livres de classe et de son petit patelin reculé. Donc bref, c'est un peu ça. On a, tu disais là, un côté sentimental, on a un côté aussi, je vais pas dire horreur psychologique, mais disons qu'il y a une espèce de thriller psychologique là-dedans. Donc on mélange un peu les genres, puis je trouvais que c'était intéressant d'aller dans ce sens-là. C'était intéressant de dire, tu sais, j'aurais pas vu une poursuite avec des Indiens, puis avec des arcs et des flèches en 1925. Ça aurait pu fonctionner à la fin du 19e siècle, peut-être, mais là, vraiment, on met une espèce de on injecte une dose de modernisme un peu forcée là-dedans, et je trouve que ça vient justement améliorer un peu l'expérience, ça vient ajouter une couche de complexité scénaristique là, dans l'ensemble.
Oui, je suis d'accord, mais même s'il y a quand même il y a différents types de westerns, il y en a des plus simplistes, mais il y en a quand même beaucoup des westerns classiques ou des westerns spaghetti qui ont une complexité dans la psychologie, dans l'histoire, tout ça. Fait que je pense qu'il y a moyen d'avoir les deux, d'avoir les fusils et d'avoir un bon scénario, là,
Oui, absolument,
mais
absolument.
là, dans ce cas-ci, clairement, Jane Campion, c'est pas ça qui l'intéressait. C'est une adaptation de roman que j'ai pas lu, mais j'imagine que c'est assez fidèle au roman, donc c'est clairement pas une histoire. Ce qui l'a attiré dans cette histoire-là, c'était pas justement de faire un film de John Wayne. Ou sinon, c'était pour comme un peu déboulonner l'image à la John Wayne du cowboy macho et vraiment, tu sais, pour utiliser une expression à la mode, la masculinité toxique, tout ça.
Oui, puis je trouvais ça intéressant parce que, ben d'abord, Benedict Cumberbatch qui joue un cowboy, moi, ça me faisait un peu rire, là. Je comprends que cet homme-là a un bon registre pour être acteur, mais c'est un Britannique intellectuel, il est pas, c'est pas le gars des champs, c'est plus le gars de la ville. C'est bon. Mais le choix est intéressant parce qu'on nous explique. C'est Phil et Georges qui est joué par attends un petit peu, j'ai le nom ici,
Jesse
Jesse Plemons,
Plemons.
voilà, qu'on a vu dans I'm Thinking About Ending Things,
Oui,
qu'on
c'est
a
ça, l'année
critiqué
passée, on
ensemble.
avait fait un épisode là-dessus, ouais.
Voilà, donc on le retrouve là-dedans aussi dans le même genre de rôle. Bon, on pourra y revenir là, dans quelques minutes, mais c'est ça, Cumberbatch, le personnage de Phil. On lui dit qu'il a fait des études, donc c'est quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un qui connaît son latin, il connaît son grec et tout ça, mais qui a décidé de reprendre, c'est ça, l'exploitation familiale et de vivre une vie finalement de cow-boy un peu déphasé, quelque chose comme 40, 50, 60 ans en retard un petit peu, je dirais. Et donc, il essaie de vivre dans cet univers-là et clairement, ça ne fonctionne pas. Il se donne vraiment une image de gars super viril, super bête et on sent assez rapidement qu'il y a quelque chose derrière et c'est Peter, en fait, le jeune Peter qui va venir un peu débloquer ça, là, finalement.
Oui, c'est pas mal ça. Puis oui, c'est un contre-emploi pour Benedict Cumberbatch, mais moi, ça m'a surpris, mais je l'ai trouvé super bon. Puis surtout que, comme tu suggères un peu, c'est un peu comme s'il jouait deux personnages en même temps, parce que, tu sais, oui, c'est une brute virile, un cowboy, puis qui est vraiment, tu sais, il veut même pas se laver. On sent qu'il s'est dit qu'il pue, qu'il est crasseux, tout ça, Il insulte son frère, il insulte évidemment le jeune Peter, tout ça. T'sais, il est vraiment rough, mais en même temps, derrière ça, c'est quelqu'un qui a quand même de l'éducation, c'est quelqu'un qui a une certaine sensibilité. C'est aussi, il a même un petit côté artistique. Il joue du banjo et il tresse des cordes, il fait des trucs quand même. C'est pas juste le cowboy, là. On sent qu'il y a autre chose qui se cache derrière ça.
Oui, absolument. On va le noter également, il y a Kirsten Dunst qui joue dans ce film-là, qui joue Rose finalement, je trouve qu'il était très bien utilisé. J'ai trouvé que c'était un personnage assez en nuance, parce qu'il aurait été possible, puis évidemment, on veut éviter de donner des divulgations, c'est un film qui est. Il vient tout juste d'arriver sur Netflix, comme on le disait. Mais je trouvais que c'était un personnage qui était. ça, qui est bien utilisé, qui est tout en nuances. On aurait pu y aller un peu grossièrement, puis dire, bon, ben, c'est la femme de Georges et XYZ, il se passe des choses, mais il y a vraiment quelque chose là-dedans de beau à voir, même si en même temps, c'est une histoire triste. J'ai trouvé que les personnages étaient beaux, en fait. J'ai trouvé que l'histoire était belle. Et évidemment, le paysage, bon, ça, c'est autre chose. On a vraiment filmé ça au Montana. C'est pas en studio,
En
heureusement.
fait, petite,
Hein?
moi, j'ai pensé la même chose que toi. J'étais comme, ah, oh, wow, les beaux paysages du Montana
Ouais.
qui est où l'histoire se passe. Mais si j'ai bien vu en lisant des trucs, c'est tourné en Nouvelle-Zélande. Car
Ah!
Jane Campion est néo-zélandaise, puis
Ok.
semblerait qu'elle a tourné le film en Nouvelle-Zélande. Fait que c'est un peu trompeur
Ah, bon.
dans le type de
Tous
paysage.
mes
On est
rêves sont
plus au.
brisés.
On est plus dans le domaine du Seigneur des Anneaux, tout
Voilà.
ça.
Ben, écoute, on va se dire quand même, peu importe que ce soit le Montana ou la Nouvelle-Zélande, les paysages sont magnifiques.
En effet.
Écoute, bon, je veux pas dire que je suis déçu parce que ça change pas grand-chose. J'ai jamais été au Montana, évidemment, et non plus en Nouvelle-Zélande. Mais bref, voilà, c'est des paysages extraordinaires. C'est vraiment magnifique. Et on est là, c'est-à-dire, je veux pas faire de comparaison avec le premier film qui me vient en tête, c'est The Room, mais parce que c'était tellement mal utilisé, tellement une mauvaise utilisation des décors naturels, en fait, qui était peu ou pas utilisé du tout. C'est un peu l'autre extrême. Mais dans ce cas-ci, effectivement, on est là, il y a de la poussière, on a l'impression, tu sais, quand on dit Cumberbatch, il est sale, mais il a l'air vraiment sale. Ils font du travail de ferme un peu, tout ça. Donc, je sais pas à quel point, tu sais, il y a beaucoup de scènes où il monte à cheval, par exemple. Je sais pas si c'est vraiment lui, ou c'est vraiment, par exemple, quand il joue du banjo, est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un qui joue à sa place? Bon, il y a peut-être un peu de trompe-l'œil là-dedans, mais on s'y sent. On a l'impression d'être là, finalement.
Oui, c'est ça, tout est crédible. Tu sais, probablement qu'il y a des doublures ici et là, mais c'est bien amené, on voit pas l'illusion là.
Je l'ai mentionné un petit peu, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du clash un peu entre justement le système de vie de cowboy et le fait qu'on est en 1925? D'abord, est-ce que tu penses qu'il y a un clash?
Ben, je pense que même en 2021, si, tu sais, moi non plus, je suis jamais allé au Montana, mais pour voir des fois des reportages ou des documentaires, il y a quand même des États américains comme le Montana probablement ou peu importe, qu'il y a des ranchs, puis il y a du monde qui s'accroche à ce mode de vie-là, qui, tu sais, oui, ils ont sûrement la télé, puis des ordinateurs, puis des téléphones, puis etc., mais ils vivent principalement sur leur ranch avec les bêtes, le côté, puis aussi des fois peut-être les attitudes un peu plus d'une autre époque. Il y a
Oui,
beaucoup de monde qui
ça.
reste accroché à ça quand
Oui.
même, là.
Oui,
T'sais, les
malheureusement, ça
États-Unis,
c'est.
c'est pas juste Los Angeles puis New York, là. Au milieu, il y a plein, plein, plein de monde qui sont dans une vie plus rurale.
Oh, oui, absolument. Puis c'est un peu la même chose au Canada aussi. On va dans les prairies. Même au Québec, je veux dire, le country au Québec, c'est très, très gros, là. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, on a vraiment, tu sais, tu disais, bon, ces gens-là, aujourd'hui, ont quand même certaines commodités. Peut-être qu'ils nous écoutent en ce moment. Non, je serais très surpris. Mais je pense que dans ce film-là, c'est un des aspects du film, c'est ce dilemme-là entre la modernité et la ruralité, parce que Georges, qui est toujours bien habillé, qui est toujours propre, et plus souvent qu'autrement est en voiture, est un clash, je le trouve, complètement à l'opposé de Phil, qui, oui, c'est très, très, quasiment brutal, mais surtout, c'est ça, il est à cheval, il a ces espèces de pantalons de cow-boy, il est jamais très, très propre. J'ai trouvé que ça, c'était vraiment mis de l'avant, puis je trouve ça intéressant parce que, oui, c'est mis de l'avant, mais c'est pas non plus. Il n'y a jamais de scène où Georges dit ben, c'est ça, tu vis dans le passé. Bon, tu réponds, ben, c'est ça, va donc t'amuser avec ta voiture. Il y a pas, ça aurait pu être très, très basique comme ça, comme dialogue, mais c'est très. C'est surtout que c'est là, mais moins là, c'est subtil.
Ouais, ben, moi, je pense que l'opposition vraiment qu'il y a dans le scénario, c'est pas tant la modernité puis l'ancien temps. Je pense que c'est vraiment plus le côté la grosse masculinité virile à l'ancienne versus un côté plus sensible et raffiné. Et je pense que le personnage de Cumberbatch, lui, il veut vraiment... T'sais, il joue au cowboy, mais il joue aussi à la brute un peu. Il veut montrer que c'est un vrai gars, puis qu'il est tough, puis qu'il n'y a pas de sentiment. Mais même si, t'sais, sans trop en révéler, on voit éventuellement que c'est quelqu'un de sensible et tout ça. Là, et...
Mais...
C'est un peu dur de parler de ce film-là, parce qu'il y a vraiment des trucs qui seraient intéressants de parler, mais j'ai l'impression que c'est un peu des spoilers. Là.
Oui, ben écoute, peut-être qu'éventuellement on aura une autre déclinaison du podcast où on fera une version avec Divulgacheur. On verra peut-être en 2022, on ne sait pas. Mais en attendant, c'est ça qu'on là, on est un peu limité. Ceci étant dit, bon, peut-être qu'on peut passer à un sujet qui est moins difficile à aborder. Qu'est-ce que tu as pensé de la musique du film?
Ben moi, je suis un gros fan de Johnny Greenwood, qui est le guitariste de Radiohead, et que ça fait quand même une bonne 10-15 ans qu'il fait des musiques de films. Je crois que le premier gros film dont il avait fait la musique, c'était There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Et justement, je trouve qu'il y a des liens à faire entre les deux films, non seulement à cause de la musique qui est un peu déstabilisante, qui crée une ambiance un peu anxiogène, tout ça. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Il y a comme vraiment des notes sombres. Fait qu'on sent que c'est pas juste une belle histoire feel good, mais aussi dans le personnage de Cumberbatch, qui est comme, du moins dans ce qu'il affiche, c'est vraiment un misanthrope. Peut-être pas autant que Daniel Plainview, le personnage de There Will Be Blood, mais moi, je voyais des liens entre les deux. Il y avait le côté vraiment, tu sais, il est vraiment bête avec tout le monde, il crie après tout le monde. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans cet homme-là, puis... T'sais, avec le côté un peu western, moderne dans tout ça. Puis c'est ça, pour revenir à ce que tu disais, oui, la musique joue beaucoup pour ça, sur cette ambiance-là.
Ben, c'est un homme qui est en perte de repère, j'ai l'impression. C'est principalement ça. Puis qui sent qu'il peut pas... Il peut essayer de se replier sur ce qu'il définit lui-même. Mais peut-être que à cette question-là, il n'y a déjà pas de réponse. Donc... ça empire un peu la situation. C'est intéressant que tu parles de la musique inquiétante parce que, bon, moi, pour certaines raisons là, que je pourrais malheureusement pas spécifiquement définir, mais j'écoute les films sur Netflix avec sous-titres parce que des fois, bon, ils ont un accent, tout ça, je peux perdre des... Puis souvent, je me dis, si on met les sous-titres, on peut entendre, entre guillemets, des choses qui sont en fond sonore et qui peuvent apporter un éclairage, bon, bref, sur le film. Et plusieurs fois, dans The Power of the Dog, on a en crochet « musique inquiétante ». Bon, évidemment, j'ai les sous-titres en anglais, mais là, c'est l'équivalent traduit, c'est ça, « musique inquiétante »,« musique stressante », c'est comme « bon, ben voilà, voici, le ton est donné ». Mais oui, effectivement, on n'est pas tout à fait à l'aise, c'est pas un western spaghetti où c'est vraiment les rythmes western comme on les connaît, où c'est un peu grandiose avec des cuivres. Là, c'est vraiment c'est ça. On n'est pas tout à fait bien. Au début, le morceau musique commence un peu, justement, ça peut être un peu optimiste, si on veut, comme musique. Puis là, rapidement, ça se dégrade, puis on dit, bon... qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Des fois, il y a des regards un peu bizarres à l'écran aussi entre les personnages. D'ailleurs, le comédien qui joue Peter, j'essaie de rapidement retrouver son nom, Cody Smith-McPhee, ça se prononce extrêmement bien. Cody Smith-McPhee, que je ne me rappelle pas avoir vu dans quoi que ce soit, mais...
Je ne sais pas si tu as vu les plus récents films des X-Men.
Ben, je vois qu'il était dans X-Men Apocalypse.
Nightcrawler. Ouais. Il fait Nightcrawler dans deux, trois films des X-Men.
Bon, ben écoute, ça répond à ma question, mais évidemment, à ce moment-là, on le voit maquillé au possible. Là. Donc, c'est sûr que ça aide pas nécessairement. Mais bref, cet acteur-là, il a un faciès là-dedans, dans ce film-là. Il a l'air de il met pas à l'aise. En fait, j'étais mal à l'aise. Je pense à chaque fois qu'il était à l'écran, on voit que lui-même est pas bien à sa peau, mais il réussit à rendre le spectateur pas bien à sa peau non plus.
Mais je trouve ça intéressant que tu dises ça sur Cody Smith,
McPhee, oui.
Il y a des lettres étranges dans son nom, voilà. Mis ensemble, en tout cas. Mais parce que moi, dans ce que j'avais entendu sur son personnage et sur sa performance, tout ça, c'était beaucoup le côté sensible, délicat, artistique, qui sont des choses qui sont présentes dans ce personnage-là. Mais en effet, comme tu dis, il est aussi troublant et sans faire un diagnostic, on se demande si c'est pas un futur psychopathe, sociopathe, quelque chose comme... tu sais, je pense pas que c'est une grosse révélation, c'est assez tôt dans le film, mais lui, il étudie en médecine, puis à un moment donné, il revient avec un lapin vivant, tout ça, puis on pense que c'est un animal de compagnie, mais tout de suite, la scène d'après, il est en train de disséquer le lapin, puis d'une façon vraiment détachée, et que on se dit, ah, wow, OK, tu sais, on comprend que c'est ça qu'un médecin fait, il doit apprendre à faire de la chirurgie, tout ça, mais de la façon que c'est présenté, puis, tu sais, c'est déstabilisant, là.
Non, puis on se dit qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans sa tête, mais comme ça se rend pas jusqu'à son visage, nécessairement, oui, effectivement, est-ce qu'on... C'est ça. Est-ce qu'il va faire quelque chose de mauvais coup éventuellement, ou est-ce que c'est juste que c'est l'adolescence, puis que bon, je ne veux pas en révéler, mais tu sais, est-ce que. Comment je pourrais dire ça sans donner du vulgaire? Mais bref, est-ce qu'il vit certaines choses? Je pense que c'est la meilleure explication. Est-ce qu'il vit certaines transformations personnelles qui font en sorte que c'est difficile à exprimer?
Mais ça, je pense qu'on peut dire que. Tu sais, je pense que dès les premières scènes du film, c'est évident que c'est quelqu'un qui est probablement homosexuel. Oui. Je pense pas que c'est une surprise. C'est comme, c'est assez évident dans comment il est présenté à tous les niveaux. Oui. Là. Puis même, tu sais, malheureusement, le personnage de Cumberbatch lui lance des insultes homophobes, tout ça.
Ah oui, ça prend 5 secondes, je veux dire, c'est...
Oui, c'est ça, c'est...
Voilà. Mais ça, d'ailleurs, c'est drôle. Ben, c'est drôle. Évidemment, c'est un film qui se passe en 1925 dans une partie régionale reculée, bon, techniquement du Montana. Mais évidemment, moi, j'écoutais ça avec ma sensibilité de 2021. Puis bon, Cumberbatch juste qui insulte son frère constamment en l'appelant « Hey, le gros ». Là, j'étais comme « Ah! » Ah, ça à chaque fois, c'était comme « Ah! » C'est pas fin. C'est vraiment pas fin. Puis son frère qui a l'air de trouver ça tellement pénible. Puis cet acteur-là...
Ça aussi parce que, tu sais, des fois, on pourrait se dire, ah, ben, ils ont une complicité entre frères, on s'agace, tout ça, mais c'est vraiment dit avec mépris, genre, hey, fatso. Puis on voit, comme tu dis, que Georges, son frère, lui, il trouve jamais ça drôle de se faire traiter de fatso.
Mais c'est pour ça que je trouvais que c'était le personnage de Jesse Plemons là-dedans ressemblait beaucoup au personnage de I'm Thinking About Ending Things, où il est là aussi, il est un peu passif, et on sent qu'il fait surtout absorber ce que les autres disent. Et je ne sais pas si c'est la façon dont on lui dit de jouer, ou si c'est un peu sa façon de jouer naturelle. Je ne le connais pas personnellement, évidemment. Mais bref, ça a l'air d'être quelqu'un qui est très dans le recevoir. Et ça me donne toujours l'impression que sa personne-là, éventuellement, va juste éclater. Et ça va pas être beau. Ça pourra devenir violent ou quoi que ce soit. Mais on dirait que cette personne-là, éventuellement, va juste briser dans sa tête. Et attention, tu sais, c'est... En tout cas, évidemment, c'est des films, là. C'est des personnages que cet acteur-là va jouer. Mais ça... Je m'attendais à quelque chose comme ça un peu dans le film. Je m'attendais à cette... éventuellement une explosion de violence. Bon, on vous aura pas si elle arrive ou pas. Évidemment, on veut pas gâcher le plaisir. Mais bref, ça... J'avais de la peine pour George. Je dis, il essaie tellement fort, puis il est tellement pas l'air content d'être là. Mais il n'a pas le choix. Donc, c'est un peu son leg, malheureusement. Là.
Ben, au moins, il trouve l'amour et un moment donné, il dit que ça fait du bien de plus être seul. Oui. Comme pour suggérer que depuis 25 ans, qu'il était juste sur le ranch avec son frère, c'était un peu comme être seul. Puis là, il trouve le personnage de Kirsten Dunst. Puis. Ça y amène quand même quelque chose de positif.
Mais ça m'a attristé, ça aussi. Je vais te... Oh! je te ferai un câlin. Tu sais, il y a quelque chose... tu sais, quand tu dis justement à quel point ta vie est peut-être misérable quand tu viens de te marier puis tu te dis pas, ben écoute, je suis en amour avec toi, c'est extraordinaire. Non, c'est le fun de ne plus être seul. Oh! Oh! Mais bon, c'est d'autres considérations psychologiques. Dis-moi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont moins plu dans le film?
Ben, je l'ai vu seulement une fois, puis ça, c'est quelque chose que peut-être qu'en le revoyant, je vais mieux comprendre comment que le film est construit. Mais quand je le regardais, je trouvais que c'est comme construit en chapitres, puis il y a des ellipses et tout ça. Et je trouvais qu'il y avait des personnages qui disparaissaient du film par moment, pendant des longs passages. Puis parfois, ça s'explique bien, comme Peter, l'adolescent ou jeune vingtaine, le jeune homme sensible, lui, il part à l'université. Fait que c'est normal qu'il n'est plus là pendant une partie du film parce qu'il est parti à l'université. Mais mettons, ceux qui restent sur le ranch, donc Phil, George et sa nouvelle femme, Rose, je trouvais que George disparaissait à un moment donné dans le film pendant super longtemps, on le voit plus. Puis tu sais, comme tu disais, toi, tu avais l'impression qu'il y a quelque chose qui se passerait avec lui, mais finalement, on dirait qu'il est un peu abandonné. Même chose avec Rose, je trouve que pendant un bout, on insiste beaucoup sur qu'elle a quand même l'air semi-malheureuse, est alcoolique, tout ça, mais il y a plus ou moins une résolution. Tu sais, finalement, le gros de l'histoire, c'est vraiment le personnage de Benedict Cumberbatch, Phil, qui est vraiment finalement lui central et aussi par rapport à Peter. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que tu comprends tout ce que je veux dire que.
Oui, tout à fait. On a l'impression que ça avance peut-être un peu trop vite et qu'elle a voulu peut-être justement, je sais pas, j'ai pas lu le livre moi non plus, à partir duquel le film a été tourné, là. Mais peut-être qu'il y a des passages qu'elle a sautés, peut-être que dans le livre, c'est peut-être un peu mieux structuré, je pourrais pas te dire. Mais tu vois, moi, ce qui m'a un petit peu agacé, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est que moi, ça m'a toujours un peu irrité quand ce soit dans les séries télé ou dans les films, qu'on a une situation où clairement ça va pas bien, il y a un conflit entre deux personnes, et au lieu d'avoir la résolution du conflit, on passe à autre chose. Puis là, on voit pas la fin. Puis on sait pas si c'est juste, ils sont juste pas parlé, ou parce que clairement, ces gens-là vivent ensemble pendant des mois. Au moins un an à peu près, je n'ai pas vérifié exactement, mais ça tourne autour d'un an au moins, et il y a des choses, je me dis, bon, ben, clairement, le courant passe mal entre Rose et Phil, et le personnage de Cumberbatch et le personnage de Kirsten Dunst, et là, je me dis, ben, est-ce qu'ils s'ignorent pendant des semaines? Est-ce qu'ils se disent bonjour des fois? Est-ce qu'à un moment donné... C'est sûr que c'est moi, là. Moi, je suis pas un gros fan des conflits. Est-ce que à un moment donné, il n'y aurait pas pu avoir une scène où il y en a un et des deux qui disent, écoute, ça va pas bien, on s'entend mal, est-ce qu'il y a quelque chose, ou sinon d'avoir vraiment l'engueulade, parce qu'on n'est jamais vraiment là non plus. Et donc, c'est pas spécifique à ce film-là, mais je trouve que c'est une formule qui laisse un peu les gens sur leur faim, c'est-à-dire on n'arrive pas à la résolution du conflit, que ce soit positif ou négatif, et ça nous permet de faire un peu du millage, si on veut, sur OK, il y a de la tension, OK, il y a une tension, OK, il y a une tension. Puis finalement, à la fin, c'est comme, ben, il faudrait que ça arrive à quelque chose. C'est un peu comme si on arrivait, puis au début du film, on nous filmait le fameux fusil de Tchekhov, là. On nous filmait une arme à feu sur un mur. Puis là, de temps en temps, on retourne à l'arme à feu, puis oh, ça s'en vient, ça s'en vient, puis finalement, le film finit, puis c'est comme, bon, ben. Ah! Mais ça peut être intéressant aussi, c'est que ça peut, justement, ce qu'on disait en début d'émission, c'est que ça nous a surpris, ce film-là. En tout cas, au moins, la fin nous a surpris. Moi, je pense que c'est intéressant, j'aime ça être surpris, j'aime surtout, bon, quand on fait cette émission-là ensemble. Mais pour le spectateur lambda, peut-être que ça peut être un peu décevant de dire, ben, je m'attendais à ce qui se passe X, puis finalement, c'est même pas Y, c'est Z qui arrive.
Ouais.
Tu sais.
Ben, pour ça, je pense que, tu sais, si des gens nous écoutent et n'ont pas vu le film encore, ça, justement, c'est bon d'avoir en quelque part, les bonnes attentes, justement. Tu sais, si tout le film, tu t'attends, ah, c'est un western, ça va finir par une super grosse fusillade et la grosse affaire, tu sais, c'est vraiment pas le bon film pour ça. Je pense que sans rien révéler, de la façon qu'on a parlé, on voit que c'est vraiment dans les relations avec les personnages, puis la psychologie, c'est là que ça se passe. Puis ça prend certaines tournures qu'on est, on a été surpris, on est plus ou moins sûr, mais ouais, c'est quand même intéressant de voir ça, là.
Oui, absolument. Puis je pense que ça reste un bon film. Je le recommande. J'imagine que c'est la même chose pour toi aussi. Mais c'est ça, c'est d'arriver avec un peu. Puis en même temps, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait plusieurs épisodes qu'on dit ça, d'arriver avec. Changer un peu nos attentes, puis d'arriver. C'est un peu difficile à décrire comme l'état d'esprit, je vous dirais, dans lequel vous devriez être. Parce qu'il n'y a pas d'état d'esprit spécifique. Comme tu disais, arrivez pas là avec l'impression que c'est le bon, la brute et le bon, la brute et le truand. C'est pas ça. Mais autrement, essayez des choses. Je pense que s'il y a un message qu'on peut transmettre à Rembobinage, essayez des choses, essayez des films. Ça peut être des navets, ça peut être des films très ordinaires, ça peut être d'excellents films. Je suis pas prêt à dire que ça, c'est un excellent film, mais je dirais que c'est un bon film. C'est sur Netflix. Donc, si vous êtes abonné, c'est l'occasion de voir ça. Probablement qu'il sortira éventuellement sur d'autres plateformes. Mais bref.
C'est produit par Netflix. Donc, okay. ils ont l'exclusivité sur le film. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que le film est quand même sorti en salle aussi, dans quelques salles, au cinéma du musée, à la Cinémathèque québécoise et au cinéma moderne. Donc, si vous voulez vraiment avoir la totale, la grande expérience, il paraît, moi je l'ai vu sur Netflix, mais il paraît que c'est quand même un film avec les paysages spectaculaires et tout ça, qui est le fun à voir sur grand écran. Puis aussi, il y a quand même pas mal de scènes de nuit ou de soir qui sont plus atmosphériques. Puis souvent, ça, dans une salle de cinéma, ça crée mieux l'atmosphère que dans son salon avec peut-être une lumière allumée quelque part.
Oui. Puis je te dirais, évidemment, ça dépend de la qualité de votre équipement électronique à la maison, mais sur mon écran, qui est quand même de bonne qualité, certains noirs, c'était un peu. La qualité n'était pas extraordinaire. Donc, peut-être que c'est une question de compression de la part de Netflix. C'est sûr que je n'ai pas le signal en 4K. Là, ça coûte un peu cher. Mais je l'avais quand même à haute définition. Puis, il y avait certains moments où, effectivement, on voit que c'est souvent comme ça, malheureusement, là, sur Internet, les noirs ont de la misère à être transmis, si on veut, sur un écran. Mais oui, si vous voulez le voir en salle, effectivement, il y a quelques cinémas qui l'offrent, là, comme tu dis. À Montréal, ça peut être une occasion de dire, je ne paierai pas, je ne verserai pas d'argent à l'Empire Netflix, quoique techniquement, oui, mais bon. Je verserai moins d'argent à l'Empire Netflix et vous encouragez le cinéma indépendant, les salles indépendantes. Donc, c'est toujours une bonne chose. Juste pour être bien certain, évidemment, j'imagine que tu recommandes, toi aussi, Power of the Dog.
Je le recommande. Surtout que c'est un film qui a fait quand même beaucoup jaser et qui va continuer sûrement durant les remises de prix, les Oscars, tout ça. Ça sera probablement un des films en nomination comme meilleur film, meilleure réalisation, tout ça, certains des acteurs. Donc, je pense puis ça vaut la peine de le voir dès maintenant et de voir, c'est ça, un des grands films qui va dominer la course aux Oscars et tout ça. Là.
Ben, écoute, je me dis que si Titan a remporté la Palme d'Or, probablement que The Power of the Dog mérite quelques prix. Je ne sais pas si ça va aller chercher l'Oscar du meilleur film.
Il a déjà gagné au Festival de Venise. Il a gagné le prix de la meilleure réalisation déjà. Donc, c'est un film qui connaît une belle carrière.
C'est bien parti, effectivement. Ben, Kevin, merci beaucoup d'avoir été avec moi encore une fois pour cet épisode de Rembobinage. Là, je pense qu'on... C'est un peu un running gag rendu là. Ça sera peut-être, comme je disais, notre dernier épisode avant les fêtes. Peut-être pas. Ça va dépendre, bien sûr, de notre emploi du temps. Mais si jamais c'est le cas, écoute, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et une très belle année 2022, bien sûr.
Ben, à toi aussi, joyeuses fêtes et tout ce que tu veux en 2022.
Merci bien. Ben, écoute, ce que je souhaite, en fait, je nous souhaite de nous retrouver en 2022 pour d'autres épisodes. Peut-être en présentiel, peut-être au Cinéma du Parc encore une fois, ou peut-être ailleurs. On verra ce que l'avenir nous réserve. En attendant, ben, ceux qui nous écoutent, voilà. Vous remercie également d'être présents, bien sûr, d'être fidèles au rendez-vous. Si vous voulez écouter les autres épisodes de notre émission, vous pouvez trouver tout ça sur pieuvre.ca. On est aussi sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et bien sûr sur notre hébergeur Balado Québec. Avant de terminer, je vous invite à vous inscrire à l'infolettre de pieuvre.ca, qui est évidemment le site qui nous héberge, qui héberge l'émission. Vous pouvez, en fait, tous les samedis, voilà, vous recevez l'ensemble des contenus publiés durant la semaine. Vous pouvez vous inscrire directement sur la page d'accueil, donc, de pieuvre.ca. Et mon tout dernier message, si vous voulez encourager le podcast, si vous aimez ce que vous écoutez, vous pouvez faire un don ou avoir des produits dérivés. Je pense qu'en 2022, ça va être l'occasion de nous faire nos propres produits dérivés, Kevin. Donc, pour l'émission. On pourra évidemment en discuter là, pendant les fêtes, mais je pense que déjà, on a des produits pour pieuvre.ca, mais ça serait une belle surprise, je crois, en tout cas un beau cadeau des fêtes d'avoir nos propres produits dérivés pour rembobinage. Donc, à surveiller bientôt, mais évidemment, en attendant, si vous voulez avoir, par exemple, des cotons à thé, des t-shirts, des tasses à café, bien entendu, on a tout ça. Vous allez trouver ça dans le menu principal de pieuvre.ca. Ça s'appelle boutique/don, et donc, le titre dit tout. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.